je vais mettre le micro, ça ira mieux quand même. Eh ben, je recommence tout. C'est Idée Noire, donc la coordination des groupes anarchistes, les militants et militantes qui ont donc organisé cette émission pour ce soir. À tout de suite. Voilà, donc, rebonsoir à toutes et à tous, Idée Noire, donc, comme tous les mercredis, de 20h à 21h, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Et ce soir, on va commencer par une grande page d'annonces et d'explications, enfin, il y a tout un tas de choses. Vous allez découvrir ça tout de suite, maintenant, à l'instant même, présentement.
Tout à fait, on va démarrer par ça. Donc, ça marche beaucoup mieux avec les micros allumés, on s'entend beaucoup plus dans le casque et tout ça.
C'est
top, hein. Et donc, du coup, oui, pas mal d'annonces aujourd'hui, puis on va rentrer un peu dans le détail. Vous pourrez aller manifester en soutien avec les lycéens, lycéennes, étudiantes et étudiants demain. Vous pourrez samedi soit aller sur Chambéry, soit aller sur Saint-Étienne, soit aller à Caen, soit aller à Montpellier, soit aller à l'atelier des canulars, soit aller manifester votre solidarité avec les Kurdes d'Afrine, tout ça. On va rentrer dans le détail pour vous expliquer tout ça. Alors, on va faire par ordre chronologique, peut-être, ce sera peut-être plus simple, hein. On va commencer comme ça. Donc, ça démarre dès demain. Donc, demain, attention, préparez-vous. Parce que demain, le jeudi 1er février, c'est une journée nationale de mobilisation contre la loi Vidal, la sélection et la réforme du bac qui en découle. Une journée de grève donc et d'action, soutenue à Lyon par une large majorité des syndicats, partis politiques de gauche et associations de jeunes. Il y aura une manif donc au départ de GEDO, tram T2 et T4, à 9h. Et qui ira donc vers le rectorat de l'Académie de Lyon, qui situe au 92 rue de Marseille. Et là-bas, il y a un rassemblement donc, qui a été impulsé par les syndicats professionnels, étudiants et lycéens. Alors pourquoi cette mobilisation, vous me direz, vous avez sûrement entendu parler de cette fameuse réforme du bac qui veut être faite, cette espèce de non-sélection universitaire qui en sera une de toute manière avec ce logiciel sur lequel il faut s'inscrire, voilà, pour pouvoir éventuellement pouvoir aller à la fac, tout en sachant qu'il n'y a pas de place de partout, il n'y a pas de truc de créer, donc du coup il y a des gens qui vont se retrouver à côté. Et donc du coup je vais vous lire un petit tract qui explique plutôt bien ça, de Solidaire étudiants et étudiantes, donc voilà, qui s'appelle Lycée Bac, Sélection Université, Mobilisation Nationale, le 1er février. Donc voilà, il y a quatre choses, il y a vers un lycée à la carte, donc le rapport Mathieu qui préconise d'en finir avec les filières pour instaurer un lycée semestrialisé et modulaire avec 9 parcours majeurs, donc sous couvert d'une liberté de choix, ça fait beau comme ça, 9 parcours, on va pouvoir faire au moins ce qu'on veut. Et ben, ce qui est imposé, c'est juste l'orientation précoce dès la seconde, l'accentuation du déterminisme social et des inégalités territoriales et la fin de la notion d'équipe pédagogique puisque le groupe de classe disparaît parce que vous êtes comme ça mis un peu de partout dans des modules que vous aurez choisis. Le déterminisme social et les inégalités territoriales, c'est déjà le cas, hein, selon où vous êtes, dans quel bahut vous êtes, mais comme ils vont vouloir casser le bac, on en parle juste après, voilà, vous allez voir que ça peut avoir des conséquences selon là où vous êtes. La casse du bac national, donc le bac réformé ne comportera plus, si le ministre arrive à son but, que 4 épreuves terminales, ce qui l'oriente vers un diplôme entre guillemets maison, dépendant donc de l'établissement, cassant ainsi sa valeur nationale. Avec le contrôle continu, l'évaluation des élèves deviendra de plus en plus source de tension avec les élèves et leurs familles, et il sera beaucoup plus difficile de la faire correspondre à des enjeux formatifs et pédagogiques. On sait que déjà un peu le cas, il y a déjà des sélections dans certains lycées, hein, qui font, voilà, pour avoir un bon pourcentage de réussite au bac. Donc maintenant, la majeure partie des choses se fera, si ça passe, hein, du coup, de manière en contrôle continu. Par rapport à la sélection à l'entrée de l'université, donc dès cette année, le bac ne sera plus suffisant pour accéder à l'université. L'aide de recommandation, engagement associatif, et pourquoi pas, entre guillemets, le relevé de compte bancaire des parents, entre points d'interrogation, bien sûr, seront demandés par les universités l'université. Organiser la pénurie pour instaurer la sélection, c'est le sale coup de ce gouvernement. Lycée modulaire plus bac local plus sélection, l'université ne comptera même plus les 11% d'enfants ouvriers ouvrières qui y étudient actuellement. Les seuls 11%. Vous imaginez, de l'aide de recommandation, engagement associatif, etc. Enfin voilà, moi, enfin, on est pour ceux qui sont allés au lycée jusqu'au bac, enfin c'est généralement un moment où on fait quand même pas mal les cancres aussi, où on vise juste la moyenne éventuellement pour pouvoir passer. Et ensuite, bah, le bac c'était 10, donc voilà, s'il faut avoir 10, bah, c'est bien, après tu passes et tu peux faire ce que tu veux. Là, du coup, hein, selon dans quel lycée vous allez être et selon comment vous allez vous comporter de la seconde jusqu'à la terminale, vous aurez peut-être un empêchement de pouvoir aller à la faculté à laquelle vous voulez aller. Et enfin, du coup, le tract se finit par un paragraphe sur défendre une éducation égalitaire. Donc voilà, il faut dès maintenant riposter à l'appel du coup de toutes les fédérations syndicales pour se mobiliser le 1er février et faire des assemblées générales, débattre des réformes et mobiliser voilà toutes les formes décidées collectivement, y compris bon, par la grève demain dans les universités et dans les lycées. Donc on vous rappelle, le rendez-vous c'est à 9h au départ de GEDO, tram T2 et T4 en direction de l'Académie de Lyon. Donc ça c'était la première chose. La deuxième, on va passer à samedi. Alors samedi, pour essayer de faire ça dans l'ordre, on va peut-être essayer de faire ça du plus près au plus loin. On va essayer, je ne vais pas me planter dans la géographie parce qu'entre moi je vais me faire engueuler. Parce que, hein, avec tous les bleds que tu nous sors après, si je me trompe dans les
bleds. Ouais, ouais. Il y a des cours de géographie.
Ouais, non, mais c'est pour ça, je vais essayer de ne pas me planter. Voilà. On va voir ça. Donc, ça démarre du coup sur un débat contre l'A45 donc, et la carrière de Saint-Julien-Molin-Molette et les grands projets inutiles en général. Ça se passera à l'atelier des Canulars, donc c'est ce samedi 3 février à 15h. Donc voilà, hein, Notre-Dame-des-Landes, centre d'enfouissement nucléaire de Bure, ferme usine des Mille Vaches, ligne à grande vitesse Turin, Center Park, Roibon, Le Rousset, Poligny. Voilà, ces grands projets, souvent inutiles et toujours imposés, publics ou privés, sont voilà, imposés aux populations par les politiciens, les aménageurs, les industriels et les prédateurs du béton contre, comme des évidences du progrès malgré leur inutilité. Par rapport au projet d'A45 entre Lyon et Saint-Thé, bah, c'en est un de plus. Donc l'État, bien sûr, Vauquier, le maire de Saint-Thé, Vinci et autres multinationales s'acharnent à vouloir éventrer le plateau mort nantais au nom du toujours plus d'autoroutes, de bagnoles, de camions, de flux de croissance et surtout de profit. Donc voilà, bah, vous savez, hein, y a une résistance qui s'est mise en place du coup contre ce projet déjà depuis au moins un an ou deux. Et du coup, voilà, vous pouvez donc aller à l'atelier des Canulars ce samedi à 15h pour discuter de tout ça, peut-être prendre plus de renseignements si vous n'êtes pas encore trop au courant de ce qui s'y passe. Et voilà. Alors je me suis un peu trompé dans la chronologie. Ouais, dites.
Ouais, non, c'est dans le même genre. Il y a un appel pour Notre-Dame-des-Landes. Le 10 février, il y a un appel à monter à Notre-Dame-des-Landes pour soutenir la ZAD.
Tout à fait.
Contre l'évacuation.
Là, vous venez de casser ma chronologie, qui était déjà foutue parce que je m'étais trompé d'une heure. Mais bon, c'est pas grave. Donc 15h, atelier des Canulars, samedi. Samedi
l'ordre
aussi.
L'ordre sans les ordres.
Ouais, non, c'est ça, un petit peu, ouais. Donc samedi à 14h, donc une heure avant, donc vous pouvez faire éventuellement les deux si vous restez sur Lyon ce samedi. Donc à 14h, place de la République, c'est métro Cordelier, une manif, comme ça a été le cas déjà dimanche dernier, on y reviendra plus tard dans l'émission, en solidarité avec le canton d'Afrine, attaqué par l'État fasciste turc, aidé par les islamistes. On fera un petit point là-dessus tout à l'heure, mais voilà, vous savez déjà que ce samedi à 14h, il y a une manif. Ensuite, si vous voulez aller sur Chambéry, je crois que je suis bon au niveau de la géographie, le moins loin, il y a une manifestation contre l'inauguration, l'ouverture du local du GUD Bastion Social. Voilà, on vous rappelle un peu l'historique de ce mouvement, hein, donc qui est en fait le GUD déguisé en pseudo-mouvement national-social qui s'appelle donc le Bastion Social, avec une ouverture de local qui a déjà eu lieu à Strasbourg, une à Lyon, et donc une à Chambéry ce samedi. Il y en aura une autre à Aix-en-Provence le samedi d'après, en espérant qu'il y ait une mobilisation aussi là-bas. Donc voilà. Donc à l'origine de ce mouvement-là, donc le GUD, qui essaye du coup de faire un peu oublier son passé et son passif, notamment de violence et de son rapport notamment aussi avec le Front National. Donc voilà, en ouvrant des locales et en essayant d'appliquer une politique qu'on appelle nationale sociale, voilà, d'aide aux personnes démunies, mais voilà, en réservant leur aide, comme vous l'aurez compris, aux Français bien blancs et voilà,
de souche
comme ils disent. Donc voilà, pour rappeler un petit peu l'historique, bon, sur Lyon, voilà, le local est ouvert depuis le 13 janvier. Voilà, il y a des mobilisations qui sont en train d'être mises en place. Il y a eu un premier rassemblement. Il y aura une réunion publique la semaine prochaine. Il y aura une manifestation début mars. On vous refera un gros point la semaine prochaine là-dessus sur la situation de Lyon. À Strasbourg, il y a déjà eu deux manifestations, une en décembre, le jour de l'inauguration, et une en janvier. Et à Strasbourg, voilà ce qu'il faut savoir, vous allez voir un peu sur leur blog, hein, c'est le local là-bas s'appelle l'Arcadia, donc vous cherchez sur une page de réseau social qui s'appelle Fermont de l'Arcadia, local fasciste de Strasbourg, et vous trouverez notamment voilà, des images du trésorier, de cette association, donc qui a ouvert le local, qui s'est déjà pris 6 mois ferme suite à une agression le jour de l'inauguration au mois de décembre, et qui en plus ils ont déterré une petite vidéo où il pose avec son pote et en se disant clairement fasciste, hein, voilà, sans gêne, sans aucune gêne.
Il n'avait pas besoin de préciser.
Non, voilà, mais du coup il le dit, voilà, je suis fasciste, etc. Ah, et en comparant du coup les migrants à des rats. Donc voilà, donc ça c'est le trésorier de l'association de ce local qui a ouvert, et on peut aussi trouver du coup sur cette page et sur leur blog des personnes qui luttent contre ce local. Voilà, le président de l'association qui lui pose avec un flingue, c'est même pas un flingue, c'est un fusil d'assaut, et puis avec une belle croix celtique derrière, voilà.
Un joli drapeau.
Donc voilà, on voit le genre de personne qui gère ce local. Alors sur lui, on essaie de se montrer un peu plus propre que ça. Nous, du coup, on a déjà amené un peu une petite enquête sur le blog sur lequel vous pouvez vous rendre, contre le pavillon noir.wordpress.com. Vous pouvez déjà avoir les liens de ces personnes-là avec le milieu néo-nazi. Il y aura d'autres infos qui vont bientôt sortir, notamment sur les statuts de l'association qui a loué ce local. Et sur le propriétaire qui a loué ce local aux nazis. Donc voilà. Voilà, grosso modo, donc la manif Chambéry, c'est 14h devant la préfecture. C'est le jour de l'inauguration de leur local là-bas. Donc voilà, il faut être nombreux et nombreuses là, à aller là-bas pour les soutenir. Ils étaient venus, voilà, quelques-uns à notre rassemblement lyonnais du mois de janvier. Donc voilà, nous, on sera quelques-uns et quelques-unes aussi à se rendre là-bas. Et si vous avez encore de la force samedi après avoir fait presque tout ça, et ben vous pouvez vous rendre à Saint-Étienne. Parce qu'à partir de 17h, il y a la première édition de l'Antifa Fest. Voilà, avec une discussion de 17h à 19h, il me semble, hein, sur quel antifascisme aujourd'hui. Voilà, nous on va essayer de s'y rendre, voilà, si on trouve du monde de dispo pour faire un peu tout là, parce que samedi vous avez bien vu que c'était quand même concentré entre la manif pour Afrin, la manif à Chambéry plus antifascisme à Saint-Étienne, ça fait quand même beaucoup. Donc du coup voilà, on essaie, parce qu'on a été invité sur la discussion, on essaiera de s'y rendre si on peut. Et donc voilà, ça c'est pour un peu les rendez-vous. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. Oui, parce qu'après on ira aussi un peu plus loin, vous allez voir encore. J'ai encore plein de choses. Ce que je voulais encore vous dire, c'était quoi ? Ça y est, je suis perdu dans mon truc. Oui, si. Ce samedi aussi à Caen. Je m'éloigne un petit peu petit à petit, hein, voilà. Hein. Voilà, il y a aussi un rassemblement à Caen, un rassemblement antifasciste, puisqu'il y a alors je sais pas si c'est un meeting, voilà, une réunion du Parti de la France de Karl Lang, voilà, donc assez proche du coup des plutôt de la branche plutôt Jean-Marie Le Pen, voilà, anciennement du Front National, de Civitas, etc. Voilà, qui organise quelque chose là-bas. Donc il y a un rassemblement pour s'opposer à tout ça. Et si vous êtes sur Montpellier. Peut-être qu'il fera meilleur que dans les autres villes. Hein. En tout cas, j'espère, si vous êtes là-bas. Il y aura une manif, du coup, en solidarité avec les migrantes et les migrants, voilà, sur Montpellier, ce samedi 3 février. Donc, parce que j'ai pas encore fini, je recherche dans mes petites pages ce que j'ai encore à vous dire là-dessus. Oui, voilà, c'était aussi un appel par rapport aux bâtiments qui sont occupés en ce moment, qui ont été réquisitionnés là, à QC à Lyon. Donc il y a l'Amphi Z, il y a la maison Mandela, et donc il y a un troisième lieu qui a été ouvert le 28 janvier pour loger donc les familles à la rue. Et donc pour rendre ces logements habitables le plus rapidement possible, donc il y a besoin de matériel et de coups de main. Donc je vais vous donner la liste, parce que voilà, si ça fait écho chez vous, voilà, donc en plus du matériel évidemment que je vais vous lister, bah, toute personne ayant des compétences en électricité ou en plomberie est le ou la bienvenue. Voilà, c'est important, parce que du coup voilà, ils recherchent pour mettre pas au nord, mais voilà, au moins pour que le lieu soit habitable le plus rapidement possible, voilà, ils ont besoin de ce coup de main là. Et au niveau des besoins, donc en électroménager, machine à laver, sèche-linge, gazinière, frigo, plaque chauffante, radiateur, au niveau matériel électrique, disjoncteur, différentiel, boîtier électrique complet, interrupteur, prise ampoule, baïonnette et culot. Pour les chambres et les salons, matelas, couverture, lampe, literie, tapis, étagère, bibliothèque, chaise, canapé, convertible ou non. Des coussins aussi. Pour les cuisines et salles de bain, donc matériel de cuisine collective, grosse gamelle, petit matériel de cuisine, couvert, plat, casserole, bac de douche. Du matériel de sport aussi, faut bien s'occuper aussi, hein, on va pas rester à rien faire. Donc maillot, ballon, raquettes de jeu en tout genre, hein, badminton, ping-pong, etc. Et voilà, et moins nécessaire, mais ils ne diront jamais non, et cela fera du bien à tout le monde. Jeux de société, billard, baby-food, etc., etc. Donc pour apporter vos dons, le plus simple c'est de les amener directement sur place, donc au 12 rue Baudin, au squat Amphi Z, ou au 35 rue Bourchanin, ça c'est la maison Mandela, toute la journée. Voilà, pour tout renseignement il y a une adresse, agirmigrantlyon@yahoo.com, et pour donner de l'argent en direct, il y a aussi un petit pot qui a été ouvert, c'est helloasso.com, association collectif Amphi Z. Vous allez sur leur page, vous allez trouver tout ça. Voilà, je voulais juste rajouter un truc, je sais pas si vous avez vu cette info là, il y a la métropole qui a voté du coup là un budget d'1,8 million d'euros. Alors c'est pas pour venir aux gens, pas pour venir en aide aux gens dans la rue, hein, ça je vous le rassure. Voilà, c'est uniquement un budget voté pour surveiller les bâtiments vides et donc pour éviter de nouvelles réquisitions. Ça veut dire que ce soit en termes de vidéosurveillance ou en moyens humains, donc avec des vigiles, parce que vous savez qu'il y a énormément de bâtiments vides qui appartiennent à la ville et à la métropole. Et plutôt que de les donner le temps qu'éventuellement des travaux soient faits, il y a des réaménagements, etc., plutôt que de les prêter, les donner, non, ils vont mettre de la vidéosurveillance et de la surveillance pour 1,8 million pour éviter que d'autres squats s'ouvrent. Donc voilà, on dit merci, un grand merci à la métropole. Tous ceux qui dorment dehors vous disent un grand merci. Donc voilà, et pour finir, et après on fera une petite pause musicale, vous pourrez ah pardon, pas fini, vas-y, je t'en prie.
Ouais, sur ce dont il y a besoin à l'Amphizède et à la Maison Mandela, c'est pareil, c'est pas ultra important, mais ils demandent aussi si vous avez des instruments de musique dont vous ne servez plus pour faire des petits ateliers musique. Ça a été pas sur le même appel, mais ils ont déjà demandé ça, et des percussions, des trucs simples. Si voilà, toujours à déposer l'adresse,
c'est
12 rue Baudin, c'est ça ?
C'est ça, ouais, 12 rue Baudin ou 35 rue Bourchain, mais c'est juste à côté de toute manière. Et donc sur Paris, dans d'autres villes, mais là j'ai l'exemple sur Paris, il y a aussi une occupation là qui est effective depuis mardi 30 janvier. C'est le bâtiment A de Paris 8, Université Saint-Denis, qui du coup qui est occupé pour demander du coup un hébergement pour les personnes qui sont à la rue, notamment les migrantes et les migrants. Donc voilà, et c'était une blague parce que j'ai pas encore fini, il me reste juste un petit truc. Pour finir les annonces, on vous donnera, il y a un communiqué qui va sortir bientôt, on vous donnera la date exacte et l'heure exacte. Voilà, il y a un procès assez important qui va se tenir en début de semaine au TGI de Lyon. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2014, le 14 février, vers 20h, il y avait un groupe de 5 amis, d'ailleurs qu'on connaît bien, lycéens pour la plupart, qui se rendaient dans un bar à Saint-Jean, voilà, pour fêter un anniversaire. Voilà, donc ils se trouvaient sur les quais de Saône au niveau de Saint-Paul. Donc quand ils ont été repérés à leur marque de fringues par un groupe d'une dizaine de personnes, ils ont été insultés de sale gauche, ils ont pris des coups, ils ont réussi à s'échapper, mais au niveau de la cour d'appel ils ont de nouveau été chargés par un groupe, peut-être les mêmes personnes. Il y a eu encore des échanges de coups, et c'est là qu'un type a frappé avec un couteau. Donc voilà, il y a eu deux blessés, un qui a eu le poumon perforé et un qui a été touché juste à côté de la colonne, donc les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves. Donc voilà, suite à ça, il y a 6 personnes qui ont été arrêtées, donc 6 personnes appartenant, vous le pensez bien, à la mouvance de l'extrême droite radicale, avec des gens proches de Génération Identitaire et du GUD. Voilà, il y a déjà une personne qui a été jugée l'année dernière, c'était parce qu'il était mineur au moment des faits. Voilà. Et donc en début de semaine prochaine, les 5 autres accusés du coup seront jugés, avec notamment du coup l'auteur présumé des coups de couteau, qui est quelqu'un de très bien connu au niveau de Génération Identitaire, puisqu'il apparaît dans énormément de photos et de vidéos, notamment de leur salle de sport entre guillemets La Gaugée. Donc voilà, 4-5 ans après, il est tout, enfin 3 ans après, il est toujours là-bas et est toujours militant actif de ce groupe-là. Donc voilà, il y a un communiqué qui sortira. Suivez-nous, voilà, sur la page réseau social que l'on tient, ou voilà, ou même ailleurs, vous verrez, vous trouverez l'information.
Ça y est, allez, c'est fini. Ça y est,
ouais.
Tu vas pouvoir respirer.
Tout à fait.
Donc petite musique. Allez, on va écouter. Qu'est-ce que j'ai choisi ? Electrochoc, donc c'est un groupe punk de 78, hein, qui va nous interpréter Chaise électrique.
Trompeur, j'ai l'électrique.
Rebonsoir, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu et l'émission Idinoir des militantes et militants de la coordination des groupes anarchistes. Et nous allons passer du coup, comme d'habitude, à une page de lutte sociale.
Une première page donc où je vais vous trimballer jusqu'à Paris, la Paname, quoi, la capitale, avec la RATP, la Régie Autonome des Transports Parisiens, bien entendu, comme vous le savez. C'était le 20 janvier avec les conducteurs de bus qui étaient en grève. Selon l'intersyndicale, il y avait 60% de grévistes donc au dépôt de Thiers, exactement, dans le Val-de-Marne, et 150 personnes quand même en assemblée générale. Alors, qu'est passé ici, donc à Paris, des sanctions à la RATP, donc des sanctions infligées à tort, je dirais à travers, pour deux employés notamment. Donc, il y a eu une menace de renouveler aussi la colère ouvrière, c'était le 29, et ça a eu du bon finalement au bout du compte, puisque la direction est revenue le 25 sur les menaces en question et a ouvert donc un dialogue à propos de l'organisation du travail et bien sûr sa rentabilité. Holiday Inn, maintenant, on en a parlé souvent à ce micro, ça a fait vraiment pas mal de pages dans les journaux et aussi sur les radios, et même, je sais même pas, à la télé, enfin bon, bref, sont ces travailleuses de Emera, cette entreprise sous-traitante dans la propreté. Donc la direction Emera, comme celle évidemment de l'hôtel, les syndicats, la CNT-SO, le CGT-HPE, c'est-à-dire hôtel de prestige économique, les actrices et acteurs donc d'une lutte qui sont les acteurs et actrices donc d'une lutte qui a débuté le 19 octobre. Et à ce jour, c'était donc le 29 janvier, et après que les directions aient mis des obstacles, bien sûr, à l'entreprise des syndicats, celles-ci, donc la direction, les directions ont été assignées par les deux syndicats en question. Elles doivent laisser, par conséquent, les syndicats, donc les représentants et représentantes de ces syndicats, faire leur travail et stopper ces entraves. Alors, misère, bien sûr, habituelle des patrons qui sont en difficulté et qui posent des difficultés donc aux syndicats et des intimidations diverses. Alors, dernières infos, évidemment, puisque ça date du 29, donc d'hier, le groupe hôtelier a contacté finalement la préfecture du 92 pour une table ronde de médiation en date qui aura lieu donc en date du 31 janvier, si je ne me trompe.
C'était aujourd'hui,
donc on n'a pas les résultats, évidemment. Donc, des avancées, on peut se poser la question, quand ça arrive à ce niveau-là, ouais, en préfecture. Donc, je mettrai un point d'interrogation. Les grévistes, leur soutien appelle à un rassemblement à Nanterre, donc à la préfecture de Nanterre à 16h, enfin, appelait, c'était aujourd'hui, je parle au... cette avenue Joliguré à Nanterre, bon bref. Alors les employés, pour en revenir à elles, c'est une majorité de femmes qui sont des femmes de chambre, gouvernantes, et puis les hommes aussi qui sont en cuisine, qui sont plongeurs, équipiers, etc. Et ça faisait quand même, ça fait 3 mois de lutte, c'est-à-dire 109 jours, pour être plus exact, avec quand même une bataille assez sévère, puisqu'il y a eu des mobilisations à Lisbonne, ils sont aller à Londres aussi, au siège social du groupe en question. Enfin bon, bref, ça a quand même pas mal bougé. J'espère que ça va sortir sur quelque chose d'important et d'heureux pour ces travailleuses et travailleurs. Je vais parler maintenant des Chibani. Alors, les Chibani, pour expliquer un petit peu très rapidement, que sont ces vieux travailleurs du Maghreb venus en France, à qui on a fait refléter évidemment que c'était le paradis, qui sont venus ici chez nous pour travailler et à qui l'État français donc a fait des promesses à tort et à travers. À travail égal, par exemple, à travail égal, salaire égal, sous-entendu que le travailleur français... tel travailleur français. Alors, il n'en a rien été, bien évidemment, ils se sont fait gruger. Plus de 40 ans pour les employés de la SNCF, ça se parle des années 70, ils font valoir donc leurs droits depuis 13 ans pour par les tribunaux. Alors, faire reconnaître évidemment la discrimination, hein, les conditions de travail dans lesquelles ils étaient, l'évolution de carrière aussi qui n'a jamais apparu, salaire en dessous du taux appliqué, et donc bien sûr les retraites, hein, qui s'en ressentent de fait. Ainsi, le 31 janvier, il y a un appel à rassemblement, donc aujourd'hui encore, hein, devant le tribunal parisien. Alors, je vous convie à voir, à lire un petit peu le très précis article sur Paris Lutte Info. Vous tapez Paris Lutte Info et vous avez, c'est à peu près c'est la même chose que notre
rébellion locale.
Donc, c'est édifiant sur le sujet qui date, je rappelle, des années 70. Ah, ouais. Là, j'en ai fait qu'un petit extrait, bien entendu. À Paris, toujours, c'était ce 31 janvier encore, donc un appel à soutien et rassemblement devant le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche pour la régularisation des étudiants, étudiantes sans papier, pour en finir donc avec la traque des personnes sans papier, de la détention en CRA aussi. C'est appelé par les étudiants, étudiantes d'Île-de-France contre les expulsions et exige la régularisation des étudiants, étudiantes contre évidemment le refus des préfectures d'Île-de-France depuis septembre 2017, où tombent à gogo les OQTF, les obligations à quitter le territoire français. Il y a eu également au Mans, c'est l'entreprise Bûcheron qui fait dans l'entretien de chaudières. Il y a eu donc une vingtaine de grévistes dans cette entreprise. C'était le 22 janvier avec piquet de grève pour être plus fort et dénoncer les conditions de travail et de vie au travail. Des augmentations salariales également exigées. Cette entreprise a été rachetée en 2008 et depuis plus rien ne va en fait. Il n'y a pas d'écoute, rien. Le SMIC comme salaire pour des techniciens, et la grève ici a été reconduite de 24 heures. Via Poste maintenant, c'est cette société logistique du groupe La Poste, et c'est à Sèche sur le Loir, hein,
voilà.
C'est dans le Maine-et-Loire. En cause, c'est un plan de départ volontaire prévu depuis juin 2017 de 25 salariés sur 42, et donc 25 emplois en moins. 40 grévistes ici, les départs se feront sur la base du volontariat, selon la CGT et la CFTC. Alors il y a quand même un point noir, puisqu'il n'y a aucun et aucune volontaire pour partir. Ouais. Donc c'est un peu emmerdant pour la direction, qui met des conditions discutables, si on peut dire, car c'est un dialogue de sourds en fait. Alors il y a une suspicion de méthode, c'est-à-dire que des méthodes seraient employées, des méthodes plus directes de la part de la direction, qui toutefois nous dit qu'elle respecte le choix et l'expression des salariés. On leur baise les pieds. voilà. Grève maintenant, c'est tout à fait extraordinaire. C'est dans un zoo. Un zoo, quoi, autrement dit, en français, à Pont-de-Scorff, dans le Morbihan, avec une... Ouais, c'est rare, quand même. Une grève pour dénoncer un climat tendu. Une dizaine de salariés ont fait grève et ont occupé le zoo, enfin, devant, du moins, le zoo. Et donc, piquet de grève, comme je disais. Alors, ce climat, c'est les conditions de travail. Il y a un sous-effectif et la pérennisation, au fait, du zoo qui attend son repreneur, là aussi. Alors, il y a 36 salariés qui risquent, évidemment, comme on dit souvent, de peigner la girafe. J'ai choisi cette petite boutade, ça m'a fait beaucoup rire. Peigner la girafe, vous savez ce que c'est, hein, c'est ne rien faire, quoi, finalement, peigner la girafe.
J'entends, on dit pas ça.
Baisse donc de l'effectif, je l'ai dit. Donc, une grève est limitée, c'était le 22 janvier. Alors là, le bubon a explosé. C'est sur des années de souffrance. Parc animalier qui a été géré par de drôles de zèbres, en fait, bolotte. Donc le repreneur éventuel est propriétaire de cliniques et de deux zoos aussi, donc de deux zoos. Voilà. Alors, les cliniques, je ne sais pas si c'est des cliniques pour les humains ou des cliniques vétérinaires, je ne sais pas du tout. Donc les affaires continuent pendant la fermeture et la grève aussi. À Toulouse, maintenant, c'est le 15 janvier, avec une grève reconductible des traminots de Tisséo. Hein, c'est pas la première fois qu'ils s'y mettent, eux aussi. Bon, toujours pour les conditions de travail dégradées, suite à une organisation qui consiste à dégarnir une ligne pour garnir une autre, ce qui ne manquera pas, évidemment, de dégrader le service aux usagers et aux usagères. Aussi, il y a aussi des nouveaux horaires, ce qui fait que les salariés, ben, les traminots, ben, c'est eux qui payent, puisqu'ils sont obligés de faire des pauses au dépôt même, ce qui leur fait des journées quand même de travail, si on peut dire, de 13 heures. À Limoges, maintenant, pour finir cette première page, ben c'est GM&S. On croyait que l'affaire était close, terminée. Ben non, non, c'est pas terminé. Alors, comme disait un slogan sur une banderole, toujours vivant, toujours debout, c'est pas terminé. Donc, comme je le disais, c'était le 15 janvier avec le tribunal administratif qui a annulé le plan de licenciement des 157 personnes, hein, on se rappelle, hein, licenciement qui avait été donc organisé par le repreneur GMD pour, ça a été annulé pour vice de forme. Donc, une aubaine, hein, quand même, pour obtenir de meilleures indemnités, puisqu'ils avaient obtenu un minimum légal pour le moment, de fait. Et le 11 janvier, ben, il y a eu 100 manifestants pour contester une nouvelle fois donc ce PSE, le robichonner sur le fond et la forme qui avait été homologué par la directe, hein, dans un premier temps, et contesté en octobre 2017. Ça correspond à un non-respect de l'article, je le cite, hein, si des fois vous voulez aller le voir, le lire, non-respect donc de l'article L1233-57-4 du Code du travail. Il faut vite aller le consulter avant que ça disparaisse. Voilà. Pour cette première page.
C'est tout bon. Moi, j'ai juste enchaîné par un petit article trouvé, du coup, sur le site de l'OIP, l'Observatoire International des Prisons. Donc, vous avez sûrement vu que depuis plus de 10 jours maintenant, bah, il y a un mouvement, voilà, de surveillants dans les, dans le système pénitentiaire, dans les prisons, avec une multiplication des blocages, voilà, depuis quelques temps. Et donc, il donne à voir, hein, on s'en doute, un système pénitentiaire à bout de souffle. Donc, voilà, on va pas parler dans cet article de fin de prison, malheureusement, enfin, de la fin des prisons, mais plutôt, voilà, de ce qui risque de se passer à l'intérieur des prisons.
C'est pas l'heure du jour, non,
c'est pas du tout à l'heure du jour. Je pense pas avoir entendu une seule fois une invitée quelque part qui dirait que, voilà, peut-être pour trouver des alternatives, en tout cas, mais en tout cas pour en finir,
on a effleuré, on va dire, la vie des prisonniers et des prisonnières, voilà. Évidemment, un petit peu, parce qu'on sent des conditions lamentables, hein, on le sait. Hein.
Voilà, et la semaine dernière, je voulais, par rapport aux prisons, voilà, il y a ce qui est un syndicat des personnes détenues qui travaillent, qui s'est monté. Voilà, à l'origine avec des proches, voilà, parce que vous savez que ceux qui travaillent, du coup, sont payés des peanuts, voilà, par rapport à ça. Et effectivement, dans cet article, ne parlera pas non plus, bah, de tous les problèmes qu'ont engendré cette grève, à savoir la fin des parloirs, la fin provisoire des parloirs durant la grève, en tout cas. Mmh. Voilà, donc c'est pour les détenus. Et on va surtout parler de l'attitude du gouvernement par rapport à ce conflit social, voilà, parce qu'en voulant en sortir vite de ce conflit, parce qu'il a vu que ça prenait quand même, il y avait quand même plus d'une cinquantaine de prisons un jour là qui étaient bloquées, presque 100, je crois. Et ben, pour en sortir au plus vite de ce conflit, ben, le gouvernement a fait le choix de céder à certaines, malheureuses, hein, des revendications les plus répressives des syndicats. Donc une régression qui accélère la plongée de la politique pénitentiaire dans une spirale sécuritaire contre-productive et attentatoire aux droits de l'homme. Donc là, ça commence par une petite déclaration, du coup, de la ministre. Hein. Ce qui nous était demandé par les organisations syndicales se retrouve très globalement dans les propositions que, donc, où la ministre aurait faites. Voilà, alors que son ministère a amorcé un vaste projet de réforme sur le sens de la peine dans le cadre des chantiers de la justice, les annonces du gouvernement Philippe donc augurent d'une accélération des mutations sécuritaires du système carcéral. Le gouvernement promet d'abord de massifier une approche ultra-sécuritaire de la prise en charge des détenus, considérés, entre guillemets, hein, comme radicalisés ou dangereux. Donc le nombre de places réservées dans des, entre guillemets, quartiers spécifiques devant garantir les conditions d'étanchéité totale, allez savoir ce que ça veut dire, devrait ainsi exploser, alors que Jean-Jacques Urvoas, donc l'ancien ministre de l'Intérieur, avait annoncé la création de 125 places au sein de 6 quartiers pour détenus violents, les QDV. Le gouvernement envisage de multiplier ce chiffre par 10 en proposant 1350 places. L'ancien ministre avait prévenu que, entre guillemets, les règles de sécurité les plus strictes leur seront appliquées, avec fouilles régulières, changement de cellule, limitation des effets personnels, etc., etc., et restriction des contacts avec les autres détenus. Aujourd'hui, le gouvernement ajoute l'installation de passe-manottes aux portes des cellules et le monotage des détenus durant leurs déplacements, ce qui ressemble dangereusement au retour des quartiers de haute sécurité, les fameux QHS, dans les prisons françaises qui avaient été fermées en 1982 par Robert Badinter, qui dénonçait leur régime inhumain. Et donc là, on y revient petit à petit. La pratique du regroupement, qui conduit à rassembler des personnes au, entre guillemets, niveau d'ancrage très disparate dans la radicalisation, avait par ailleurs été épinglée par la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, car comment imaginer que les soumettre à un régime extrêmement coercitif et stigmatisant, propre à nourrir le sentiment de désaffiliation et à renforcer leur adhésion à une identité commune, puisse contribuer à contenir leur ressentiment et à les faire renouer avec la société. Si les détenus concernés n'ont plus aucun espoir de réhabilitation, si la façon dont ils sont étiquetés en fait des personnes n'ayant plus rien à perdre, le principal risque est de les voir s'ancrer dans le cercle vicieux de la violence. Ces quartiers s'ajoutent aux 150 places déjà prévues dans les quartiers d'isolement pour les détenus jugés les plus dangereux. Or, les effets délétères de l'isolement total sur les détenus sont connus, au point que cette pratique a été qualifiée, on a déjà parlé plusieurs fois, de torture blanche, altération des sens, déstabilisation des repères spatio-temporels, décompensation psychologique, etc. Pour la plupart, l'isolement prolongé rend complètement fou. La mort psychique qui en résulte est un phénomène très inquiétant, raconte un praticien. En l'absence de relations humaines, soit la personne parle toute seule, soit elle ne parle plus. Très vite, sa pensée devient anémiée, car il n'y a plus de mots, mais la recherche de sensations immédiates. Donc des automutations, des gens qui se cognent la tête contre le mur, etc., etc. En outre, loin d'être réservé à la prise en charge des détenus considérés comme dangereux, la démarche sécuritaire du gouvernement contamine l'ensemble de la prison. En témoigne la proposition d'étendre les possibilités de poursuites disciplinaires contre les détenus ou de créer de nouvelles sanctions infradisciplinaires pour réprimer certains actes mineurs. Mais aussi le projet à peine masqué de réformer l'article 57 de la loi pénitentiaire de 2009 pour permettre à nouveau un usage massif des fouilles à nu en détention, pratique pourtant condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme comme attentatoire à la dignité humaine. Et ce, pour quel gain en matière de sécurité? En 2016, cette commission relevait en effet qu'aucune donnée significative ne permet de démontrer que l'instauration par la loi pénitentiaire d'un cadre restrictif de recours aux fouilles a eu pour conséquence d'augmenter l'introduction d'objets interdits en prison. La voie dans laquelle s'engage donc le gouvernement est celle d'une atteinte massive aux droits fondamentaux des personnes détenues, en remettant au goût du jour des dispositifs abandonnés pour leur nocivité et leur antagonisme profond avec les droits de l'homme, sans que cette régression ne garantisse que soit atteint l'objectif de sécurité qu'elle prétend poursuivre. Ainsi que l'expliquait très récemment l'ancien contrôleur général des lieux de privation de liberté, ce n'est pas en multipliant les mesures de force et de contrainte que l'on va renforcer la sécurité dans les prisons. Plus de sécurité, c'est renforcer le modèle français dans ce qu'il y a de plus négatif. Je crois qu'il faut, dans l'intérêt même des surveillants, renforcer un lien de confiance, construire les détenus comme des personnes responsables, et à ce moment-là, la sécurité reviendra dans les prisons. Donc voilà, donc avec ces propositions, le gouvernement passe à côté des causes de cette violence. Bah, on les connaît toutes, ne serait-ce que déjà la détention. Mais il y a surtout des conditions indignes de détention, aggravées par la surpopulation, l'absence de sens d'une peine sans contenu, la déshumanisation des relations entre les surveillants et les personnes détenues, la confiscation de la parole et de tout moyen de protestation. En allant dans le sens de certaines revendications des syndicats de surveillants, le gouvernement fait le choix de ne pas écouter d'autres voix qui, au sein de l'administration pénitentiaire, ont pu appeler à une autre politique ces dernières années, enterrer les conclusions d'un groupe de travail composé de personnel pénitentiaire et de chercheurs qui, afin de réduire cette violence en prison, appelait en 2007 l'administration pénitentiaire à questionner et à mettre à plat l'ensemble de son dispositif sécuritaire défensif et donner sa place à la dignité des relations sociales en développant la vie sociale en détention. On est bien loin de tout ça, vous l'aurez bien compris. J'ai pas suivi ces deux derniers jours, mais du coup, il y avait un syndicat majoritaire qui, a priori, avait accepté de signer les propositions du gouvernement. Ils sont pas majoritaires, mais autour de 40%, quoi, ils représentaient. Les autres syndicats, du coup, prenaient ça pour une trahison et refusaient de signer. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe dans les jours qui viennent. J'ai pas suivi, là, sur les deux derniers jours, s'il y avait eu d'autres blocages ou grèves, mais il me semble pas. Il me semble que, du coup, ça s'est un peu désamorcé avec ces promesses sécuritaires du gouvernement.
Il faut rappeler aussi que l'État français est rappelé et régulièrement par la Commission, je crois que c'est la Commission des droits de l'homme européen.
Ah ouais.
C'est comme si on sifflait on pissait dans un Stradivarius, quoi, c'est tout. C'est pas,
exactement.
Ça continue, quoi. Ça tourne en rond.
À proposer de construire des prisons, plus de places, avec plus de monde dedans, etc., etc. Puis avec la réforme de la justice qui risque d'arriver sur les peines, qui risque de faire très mal aussi, mais on en reparlera ça sûrement un peu plus tard.
Voilà.
On se fait une petite pause musicale.
Une pause musicale, j'ai préparé ça. Donc on va écouter cette fois les Olivenstein avec Euthanasie.
du gouvernement dans ça.
Peut-être.
On verra.
On verra ça.
Ok, vous êtes toujours à l'écoute d'Idées Noires, l'émission des militantes et militants de la coordination des groupes anarchistes, et on enchaîne avec la deuxième page de lutte sociale.
Bien, je vais vous ramener encore une fois sur Toulouse. Ça bouge beaucoup à Toulouse en ce moment, Rennes, enfin bon, il y a pas mal de villes comme ça où, il faut que ça bouge, quoi. Donc à Toulouse, c'est de l'hôpital Pierre-Paul Riquet avec une manifestation le 22 janvier pour affirmer la grève du 15 janvier. Alors, il y avait 12 services qui sont dans des conditions dégradées, effectifs manquants, hein, selon la CGT, et une nouvelle organisation un projet donc, de la direction incompréhensible. Alors, les revendications, c'est d'avoir 10 personnes à temps plein et 8 en équivalence temps plein. La direction a arrondi, évidemment, sur cette affaire, a arrondi les angles. À Chinon, en Indre-et-Loire, eh bien, on retrouve les mêmes soucis au centre hospitalier le 12 janvier et une grève à l'appel de l'intersyndicale Sud FO et la CGT pour dénoncer le manque de personnel. Plan de retour à l'équilibre, 30 grévistes pour un millier d'employés, ça fait pas lourd, pour dire et crier touche pas à ma masse salariale. De quoi je m'occupe ? 80% donc du budget quand même représente cette masse salariale. Le CHSCT craint la fermeture des services en question. Idem à Laval aussi, en Mayenne, c'était le 24 janvier avec syndicat FO-CGT, FO et la CGT à la manœuvre. Alors grève illimitée au centre hospitalier, des lits supprimés, en veux-tu ? Eh bien il n'y en a plus. Depuis 3 ans, une centaine, les draps qui vont avec, etc., etc. Et les patients et les patientes évidemment. Alors tension aux urgences, 94 à 125 visites par jour et des actions prévues. La direction évidemment minimise le mouvement des 960 salariés. Une lutte qui est passée, enfin peut-être qui est passée inaperçue, c'est celle des salariés de l'Institut National de Recherche et de Sécurité, en plus court ça fait INRS, de la Sécurité Sociale pour les risques professionnels. Le ministère les concernant, c'est le ministère du Budget, hein, pour rien vous cacher, veut leur piquer 15% de leur budget de fonctionnement. Alors, réduction de 10% de l'effectif, aussi 58 emplois en moins, après les 75 de ces dernières années. Alors, lutte qui est emmenée par la CGT, la FERC-CGT, FERC-CGT, je ne sais pas ce que ça veut dire. Cette ponction va faire évidemment un grand plaisir et les choux gras du MEDEF. Une victoire syndicale aussi, maintenant, il faut en parler de temps en temps, c'est un peu de ciel bleu dans ce ciel gris. C'est la CGT et de la CGT, donc de la société Altran Sud-Ouest, c'est encore à Toulouse, après 9 ans de procédure pour le non-paiement d'heures supplémentaires concernant 300 salariés qui se verront dédommagés ainsi que de congés et de primes de vacances, 10 millions d'euros. Hein. Quand même, pratique qui est une pratique courante chez Altran, hein, de gruger ses employés, ses salariés, qui entre 2015 et 2016 est attaqué par 1000 salariés au tribunal des prud'hommes pour la même arnaque. En janvier 2017, Altran a été condamné par les prud'hommes à 4 et 5 millions et a fait appel. Au fait, je dirais que Altran, c'est une pointure, hein, dans le domaine du conseil en ingénierie informatique, leader mondial quand même en recherche et développement, dans tout. Carrément dans tout, quoi, dans tout. Elle a été créée, cette société, en 2008, mais il y avait eu une première création en 1982 qui s'appelait CGS Informatique, ça c'est pour votre information personnelle. C'est une société anonyme à conseil d'administration. Il y a 700 dossiers de plainte qui sont en attente au tribunal des prud'hommes de Toulouse. Alors, pour parler chiffres maintenant, en ce qui concerne cette société, c'est 2120 millions d'euros, le chiffre d'affaires. Autrement dit, 2,120 millions.
Ça va bien.
Faut le dire, du coup. Voilà. Maintenant, c'était le 27 janvier avec une belle manifestation. C'était à Saint-Chamond, environ 1000 personnes pour sauver la maternité. La maternité de l'hôpital du Gier. Alors, service très menacé, on s'en doute, par un manque de médecins pour assurer 800 naissances à l'année. Et il en faut 3. Des naissances, des médecins. Donc auparavant, le 18 janvier, la CGT avait mobilisé quand même en soutien à la maternité avec un rassemblement à Saint-Étienne, à l'hôpital Bellevue, pour le maintien de cette maternité. Et précisément, ce jour-là, était discuté l'avenir du service maternité par les directeurs du groupement hospitalier du territoire. En plus court, encore une fois, ça fait GHT. GHT, rien du tout. Soutien aussi des gynécologues, ils ont eu le soutien des gynécos de Firminy et de Saint-Étienne. Et pour terminer cette deuxième page, eh bien, c'est un autre point chaud et c'est nouveau. C'est à Besançon cette fois, avec le relais H. Alors, je ne sais pas trop du tout ce que c'était que le relais H. Le relais H des CH, du CHRU Minjose en grève, donc à Besançon. Alors, qu'est passé là, encore une fois, c'est une directrice qui fait son apprentissage de directrice dans la Légion. Heures supplémentaires non payées, insultes, humiliations, conditions de travail dégueulasses, 6 démissions et licenciements. Eh bien, les employés en ont eu ras la casquette. Ils ont mis en place donc des débrayages. Ils ont appelé à la rescousse l'inspection du travail et la direction du groupe Lagardère, parce que les relais H, ça fait partie du groupe Lagardère. Donc, soutenu aussi par la CGT, les grévistes ont obtenu donc le paiement des heures supplémentaires majorées, ont obtenu également qu'ils et elles ne seraient pas inquiétés suite au mouvement de grève. Et cerise, je dirais, sur la merde, eh bien, c'est que la manager a été écartelée. Pardon, elle a été écartée.
Écartée, vous avez votre langue à fourcher.
Ouais, ouais. a été écarté donc de ses responsabilités. Alors pour faire un petit point sur le Relais H, que je ne connaissais pas, bah, ce sont des boutiques hein, qui sont installées dans les hôpitaux,
donc, dans les hôpitaux ouais,
qui proposent d'améliorer le quotidien des patients et patientes. Et
en échange d'un peu de thunes. En échange d'un peu de thunes.
Ah oui, en effet, oui. Alors maintenant, c'est pas gratuit. Alors, il faut faire la Gardère.
Oui, non, mais c'est trop facile.
Donc, les personnels aussi, enfin, les visiteurs, visiteuses, etc. Donc, c'est dans la restauration, journaux, enfin, bref, tout ça, quoi. Voilà, monsieur, dame.
Voilà, donc avant de reparler un petit peu d'Afrin, là, dans le nord de la Syrie, un petit appel à solidarité, donc avec Fabien, et par rapport au refus de fichage ADN, je vous lis la pétition qui est en ligne. L'adresse, elle est, vous pouvez la trouver, donc c'est refus du fichage ADN, solidarité avec Fabien, tout attaché. Vous tapez ça, je pense que vous tombez sur la pétition. Donc voilà, le 16 novembre dernier, donc Fabien, militant libertaire, a été menotté lors de la tenue d'une table d'information sur le compteur Linky, puis placé en garde à vue au commissariat de Saint-Gaudin durant 7 heures. Que lui voulait-on fichier son ADN ? Plus d'un an après un passage au tribunal correctionnel de Toulouse pour avoir entravé l'interpellation violente d'un sans-abri durant la période du mouvement social contre la loi travail, la justice revient à l'assaut et déroule une partie de son arsenal répressif. Le prélèvement ADN visait à l'origine au fichage des délinquants sexuels. Il est maintenant largement utilisé au service de la répression des acteurs et actrices du mouvement social. Pour cette raison, de nombreuses organisations politiques et syndicales en préconisent le refus. Parmi elles, donc les faucheurs volontaires, le syndicat de la magistrature, Solidaire, la Confédération paysanne, la CGT, etc. Ayant lui aussi, et comme beaucoup d'autres, refusé de se soumettre au prélèvement de son ADN, Fabien donc comparaîtra devant le tribunal d'instance de Saint-Gaudin le 1er mars à partir de 14h. Parce que nous refusons d'être fichés à vie pour nos idées et pour nos luttes, contre la discrimination politique, syndicale et militante, nous demandons la relaxe de Fabien concernant son refus du prélèvement ADN. Donc voilà, donc vous pouvez voir sur le net pour cette pétition. Puis on refera un point, je pense.
C'est un camarade.
Voilà. Fait, ouais. Oui. On fera un petit point du coup jusqu'au 1er mars, toutes les semaines, pour rappeler la signature de la pétition.
Et pour ceux qui ne sont pas au courant, en garde à vue, le fichage ADN, on peut le refuser. Mais c'est un délit de le refuser. Donc
tout à fait, ouais, c'est pour ça, ouais, du coup, derrière, tu passes au tribunal.
Voilà, on passe.
On a le droit, mais ça prolonge la garde à vue et ça peut après être
voilà,
au tribunal.
On a le droit de le refuser, mais le refuser, c'est un délit. Donc,
C'est sympa comme droit.
Hein, c'est gentil.
Ouais. Donc on va vous ramener du côté d'Afrin, donc ce canton hein, qui fait partie du Rojava, qui est le plus à l'ouest, coincé entre du coup la frontière turque, et une zone occupée par les islamistes. Vous savez qu'elle est bombardée depuis maintenant plus d'une semaine par l'État fasciste turc qui rêve de créer une espèce de zone tampon voilà, entre son pays et la Syrie et le reste du Rojava avec Kobané, et qui rêve surtout d'étendre son empire hein, vu que la Syrie existe toujours mais voilà, est dans un état pas possible. Petit texte trouvé du coup dans un magazine sur internet et qui était repris par la page réseau social de Kurdistan au féminin. Donc l'armée turque intervient avec les groupes islamistes qui lui sont alliés. La chute d'Afrin serait un échec stratégique majeur pour le camp occidental et une trahison de leurs alliés. Limitrophes de la province d'Idlib, déjà aux mains des islamistes, ceux-ci élargiront la zone sous leur contrôle qui servira de refuge aux éléments les plus dangereux en fuite de la zone de Raqqa, récemment reprise à Daesh. Le niveau du risque d'attentat en France et en Europe sera de facto plus élevé. Une intervention turque avec un relent djihadiste. Les autorités turques, pour lancer leur opération militaire, ont demandé aux imams de 90 000 mosquées du pays de prier et de réciter la sourate de « conquête » entre guillemets du Coran. Ceci ne devrait guère rassurer les Kurdes de Syrie, car cela leur rappelle la sinistre instrumentalisation de l'islam par Saddam Hussein à la fin des années 80. En effet, l'ancien dictateur irakien avait baptisé « Danfal », une autre sourate du Coran dans sa campagne génocidaire et son utilisation d'armes chimiques à l'encontre de la population kurde de son pays. Dans une Turquie où ni les démocrates turcs ni la population kurde de ce pays menacés de payer très cher ne peuvent manifester leur solidarité, où les médias ont été muselés et les journalistes déviants de la ligne dictée par le pouvoir islamiste sont mis en prison, les attentes de la part de la communauté internationale sont encore plus grandes et sa responsabilité plus que jamais importante. Le peuple kurde, un des plus vieux peuples autochtones du Moyen-Orient avec sa société pluraliste, regroupant et accueillant les différentes religions et confessions de la région et qui de surcroît s'est rangé du côté des puissances occidentales face au terrorisme, ne doit pas être abandonné à son sort une fois de plus. Donc voilà, on rappelle qu'il y a de nouveau une manifestation ce samedi à 14h qui partira de la place de la République au métro Cordelier. Et je voulais vous lire aussi un texte d'appel de la campagne donc pour la Brigade Internationale, un appel à solidarité. Au cœur du Moyen-Orient, les populations du Rojava se sont soulevées contre les forces réactionnaires qui oppressent la région depuis des décennies. Après avoir libéré le Rojava de Daesh, les habitants du Rojava et les nombreux révolutionnaires étrangers qui sont venus les soutenir inquiètent à présent les impérialistes américains et l'OTAN, ainsi que les régimes réactionnaires et fascistes du Moyen-Orient, la Turquie, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Tous à présent interviennent par bombardement ou ingérence, reproduisant les stratégies qui ont abouti à la création de nombreux groupes islamistes comme Daesh, Al-Qaïda ou Al-Nusra, des golems qui ont échappé au contrôle des pays capitalistes qu'ils ont façonnés. Que ce soit par les attentats meurtriers, par les bombardements de civils, par les arrestations massives de militants révolutionnaires, par les attaques permanentes contre les guérillas populaires ou par les marchandages capitalistes, les ennemis du peuple ont bien du mal à arrêter la lutte de libération qu'ont entreprise les populations du Rojava, du Kurdistan et de tout le Moyen-Orient, et particulièrement les femmes armées du Rojava qui sont le pire cauchemar des islamistes. Après s'être entouré de ses alliés habituels et historiques, USA, OTAN, Union européenne, ONU, social-démocrate et régime réactionnaire, la Turquie a entrepris une large campagne de répression à travers les territoires kurdes en Turquie, en Irak et en Syrie, avec pour objectif prioritaire de saboter les ambitions révolutionnaires des peuples opprimés du Rojava. Et dont le bataillon international de libération qui regroupe des combattants communistes, anarchistes et antifascistes, venus défendre le Rojava dans l'esprit des brigades internationales de l'Espagne de 36, apportons-leur un soutien politique et matériel en finançant des pansements hémostatiques. 60% des blessés par balle meurent d'hémorragie en attendant d'être pris en charge. Ces pansements stoppent l'hémorragie rapidement et coûte $40 l'unité. Soutien à la lutte pour la révolution des peuples du Rojava et d'ailleurs contre les islamistes, les USA, l'OTAN et les États réactionnaires. Vous allez sur internet, voilà, vous avez le lien aussi, voilà, si vous voulez faire un don, voilà, pour aider les combattantes et combattants de là-bas. Et je voulais vous parler toujours sur le même sujet. On verra si on déborde un petit peu, si ça déborde un petit peu ou pas. Voilà, pour vous parler un petit peu aussi de la communauté Alevi, voilà, parce qu'il y a un concours de plaidoirie qui est organisé au mémorial de Caen, voilà, tous les ans. Voilà, avec des lycéens et des lycéennes qui peuvent donc qui choisissent un sujet et qui du coup qui le posent devant, voilà, devant un jury. Et ben ce coup-ci, une lycéenne a choisi de défendre la communauté Alevi, discriminée par le pouvoir d'Erdogan en Turquie. Elle est depuis harcelée sur les réseaux sociaux. Donc je vous lis ça. La question Alevi, cette communauté religieuse minoritaire en Turquie, est très sensible, même en France, au point d'attirer à ceux qui la soulèvent insultes et menaces de mort. Donc cette lycéenne en a fait les frais alors qu'elle participait donc à ce concours de plaidoirie, dont la finale était organisée au mémorial de Caen. Le concours prévoyait donc que chaque candidat, élève de lycée, élise un thème à défendre, une injustice qui les touche. Hélène Yildiz, venue d'un établissement de Moselle dans l'est de la France, est issue d'une famille Alevi, une communauté donc importante en Turquie. Les Alevis sont associés au chiisme et pratiquent une spiritualité libérale nourrie de science. Donc leur religion les distingue fortement donc des sunnites. Ils ne respectent ni le ramadan ni le rythme des prières quotidiennes et se retrouvent en confrontation avec l'islam politique promu par le parti au pouvoir, donc l'AKP d'Erdogan. Donc elle a commencé comme ça: je vais vous parler d'un peuple, mon peuple, débute-t-elle, d'une culture, d'une religion très minoritaire. Les Alevis sont entre 10 et 15 millions en Turquie. Vivant dans un pays à forte majorité sunnite, ils peinent à faire valoir leur culte et leur mode de vie. La lycéenne décrit comment les Alevis doivent faire semblant de prier dans les administrations pour ne pas se faire remarquer, ou encore de laisser la lumière de leur maison allumée la nuit pour faire semblant de jeûner lors du ramadan. La plaidoirie donc de la jeune lycéenne a touché le jury, qui l'a donc décerné un prix. Et ben aussitôt, elle reçoit des injures sur les réseaux sociaux et se voit menacée de mort. On l'a dit sympathisante du coup du PKK, le Parti des Travailleurs du Kurdistan, considérée comme terroriste par une grande partie de la communauté internationale, dont la Turquie. Une vidéo, diffusée par le journal turc, une page Facebook ouvertement pro-Erdogan, qui compte plus de 90 000 sympathisants, reprend le discours de la jeune femme, le tronçonne et le retoque point par point sous fond de musique dramatique. Au cours de la vidéo, on voit un homme ricaner face caméra, en ponctuation des propos de la lycéenne. L'effet est glaçant. On a tout de suite vu que les réseaux sociaux s'enflammaient, raconte Stéphane Grimaldi, donc directeur général du mémorial de Caen, jouant au téléphone. C'est une violence invraisemblable. La jeune femme est menacée de mort. Elle a fermé son compte Twitter. L'affaire a débordé en Turquie puisque son texte a été traduit par ses détracteurs pour être diffusé plus largement. Nous avons pris toutes les mesures pour la protéger et l'entourer. Elle n'a que 18 ans. Voilà, Hélène Yildiz avait déjà reçu des menaces lorsqu'elle a passé les premières phases du concours, notamment lors de la finale régionale à Strasbourg. Ses parents l'avaient mise en garde contre les dangers d'une telle exposition au grand public. C'est ce qu'elle explique, au cours de son allocution. Donc, ma plaidoirie s'est faite entendre. J'ai reçu des messages de harcèlement et d'insultes de certains membres de l'AKP. Mes parents ont peur que je participe à ce concours, explique-t-elle. Cet acte de courage et de ténacité, donc, a été salué par les membres du jury. Voilà, les discriminations envers la communauté Alevi ont été condamnées à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est important. Alors, je sais pas si on aura le temps de le faire un jour, mais se repenche un peu sur l'historique aussi de la répression et des persécutions subies par cette communauté en Turquie depuis plus de 50 ans, voire plus. Donc voilà. Vas-y, histoire.
Ouais, aussi, en Turquie, il y a plus de 300 personnes qui ont été arrêtées pour avoir affiché un soutien à Afrin.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est
et juste sur les réseaux sociaux, en Turquie, il y a plus de 300 personnes qui ont été arrêtées. Et là, récemment, il y a un footballeur germano-turc qui a été parce qu'il a, avoué, enfin, il a posté quelque chose en soutien à Afrin et il a été interdit à vie de fédération turque et il s'est fait tirer sur sa voiture en Allemagne.
Voilà, parce que du coup, c'est une vraie dictature qui s'établit en Turquie, puis à l'étranger aussi, parce que du coup, là, c'était quelqu'un qui n'était pas en Turquie, mais du coup, voilà, les pros Erdogan sont complètement fous, bah, comme son chef, hein, comme lui-même. Et voilà, et ce qui se passe en Turquie, c'est complètement dingue. Voilà, la propagande qu'il y a, que ce soit à la télé, à la presse, maintenant qu'il contrôle tout, bah, il peut dire un peu ce qu'il veut à sa population. Je crois qu'à chaque manifestation sportive, il a obligation de prêter allégeance pratiquement à ce qui se passe du coup à Afrin. Enfin, voilà, c'est assez fou ce qui se passe là-bas. Et donc, voilà, pour les combattantes et les combattants kurdes qui sont sur place et ceux qui et leur soutien, bah ça devient très difficile parce qu'effectivement ils sont battus contre Daesh et derrière bah ils se ramassent la Turquie pour l'instant avec aucun soutien, voilà, ou un très 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 faible soutien, voilà, avec Macron qui a dit qu'il surveillait de près ou qu'il avait déjà dit qu'à Erdogan c'était pas bien ce qu'il faisait, donc du coup voilà, fallait qu'il arrête. Attention. Voilà, on imagine bien qu'il a pas s'arrêter là, cet homme-là est complètement fou, enfin il rêve d'un empire beaucoup plus grand que ce qu'il a maintenant et surtout à l'extermination de tous ses opposants et opposantes. Et les premiers et les premières, voilà, c'est le peuple kurde. Donc voilà,
pour qu'on soit. Et aussi, pour suivre beaucoup d'informations, ce que tu disais, suivez la page Facebook Kurdistan au féminin, qui vraiment informe beaucoup.
Enfin, il y a au jour le jour sur ce qui se passe.
Il y a quasiment une dizaine de posts par jour sur vraiment ce qui se passe au jour le jour. Et c'est vraiment, vraiment une super bonne source d'information sur ce qui se passe à Afrin en ce moment.
Il y a le site Kédistan, pardon. Il y a aussi la page des Yedegué, enfin voilà, Nouvelle Jeunesse Démocratique. Enfin, vous pouvez voir, il y a des infos. Voilà, si vous vraiment trouvez les bonnes infos sur ce qui se passe là-bas, et surtout sur la propagande qui est menée, à savoir que l'armée turque avance, c'est pas forcément le cas, parce qu'il y a une défense terrible, voilà, du côté des combattants et des combattants kurdes d'Afrin. Donc voilà, donc allez plutôt voir ces médias-là pour faire une idée et le propager, voilà, pour éviter d'entendre ce que vous entendez sur les médias de masse.
D'où l'intérêt des réseaux sociaux dans ces conditions-là, quoi.
Voilà, tout ça, dans ces endroits-là où c'est très compliqué. Et donc voilà, on rappelle peut-être vite fait les rendez-vous avant de vous quitter, donc il n'y aura pas la lumière du frigo juste après nous. Donc on vous rappelle demain, 1er février, donc une manifestation qui part à 9h de Gédo, tram T2, T4, voilà, contre la réforme du bac, de l'accès à l'université et tout ça. Donc organisé par les organisations syndicales lycéennes et étudiantes. Voilà, la manifestation ira du côté après du rectorat, où il y a un rassemblement à 11h qui est organisé également. Ce samedi, du coup, on vous a dit 14h manif pour soutenir Afrin. Ce sera place de la République, métro Cordelier. Si vous êtes du côté de Chambéry, 14h manif contre le bastion social et l'ouverture d'un local. 15h sur Lyon, atelier des canulars, discussion sur le projet A45 et tout. Les projets inutiles. 17h, à partir de 17h, le premier Antifa Fest à Saint-Étienne. Donc voilà, j'ai un peu tout rappelé, il me semble.
Et aussi, si vous avez pour les dons pour l'Amphiz, c'est assez important, 12 rue Baudin.
Voilà, il y a tout le détail, soit en début d'émission, que vous pouvez trouver sur le blog de l'émission, soit du coup sur Rebellion, tout est listé. Donc voilà.
Et du coup,
on vous dit, voilà, il n'y aura sûrement pas de permanence ce samedi à 15h, parce que vu tous les événements qu'il y a dans la rue, on sera beaucoup plus utile et efficace dans la rue, que ce soit aux côtés de nos camarades kurdes ou aux côtés de nos camarades antifascistes au Chambéry ou Saint-Etienne, que de rester notre permanence de la librairie. Donc voilà. Donc on donne rendez-vous plutôt mercredi prochain pour la permanence. Et on l'espère samedi prochain. Voilà. Et si après, s'il y a une manif, il y a une manif. Et du coup, on sera dehors. Donc voilà.
Notre train des Landes.
Allez, bonsoir à toutes et à tous et à mercredi prochain, bien sûr.
Bonsoir.
Salut.